Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 3 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal de ce mardi. Le ministre des Finances en Australie, Jim Chalmers, affirme que son gouvernement a fait baisser l'inflation tout en reconnaissant que le taux d'inflation reste trop élevé. L'opposition blâme les dépenses gouvernementales et les économistes anticipent une hausse des taux d'intérêt lorsque la Reserve Bank annoncera sa décision cet après-midi à 14h30. Les Nations Unies ont salué la réouverture du point de passage de Rafah, mais ont appelé à une augmentation du nombre de personnes autorisées à franchir la frontière. Et en France, le budget de l'État pour 2026, adopté après quelques 4 mois de blocage. Et on passe au journal. En Australie d'abord, le ministre des Finances, Jim Chalmers, affirme que son gouvernement a fait baisser l'inflation tout en reconnaissant que le taux d'inflation reste trop élevé. L'opposition blâme les dépenses gouvernementales et les économistes anticipent une hausse des taux d'intérêt lorsque la Reserve Bank annoncera sa décision cet après-midi à 14h30. Jim Chalmers a déclaré sur Channel 9 que s'il assume la responsabilité de la gouvernance économique, de nombreux facteurs pourraient contribuer à une éventuelle hausse des taux.
If you look at the most recent inflation data, that was about holiday spending. The tick up was about holiday spending, the withdrawal of the energy rebates, some weather issues in fruit and vegetables, some more persistent issues in housing. Now, all of those are serious issues, but some of them are temporary, and they're not fundamentally about government spending.
La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a proposé de réformer la coalition cette semaine à condition que les trois sénateurs ayant voté contre la question des lois sur les discours haineux siègent comme simple député du backbench pendant 6 mois. Madame Lee a qualifié de constructive ses conversations avec le chef du Parti national, David Littleproud, hier, tout en rejetant les allégations de menaces à son leadership. S'exprimant à la sortie d'un office religieux marquant le début de la nouvelle semaine parlementaire, Madame Lee s'est montrée confiante quant à la poursuite des discussions avec le Parti national.
Well, we had constructive conversations with the National Party last night, and I want to make the point that they were friendly, they were constructive. We agreed to keep talking because we are both parties on the non-Labour side of politics.
En Nouvelle-Galles du Sud, les enseignants et les directeurs d'écoles qui tiennent des propos haineux pourraient être licenciés en vertu d'une nouvelle réglementation applicable au personnel scolaire. Le gouvernement de l'État précise que cette modification de la politique entre en vigueur dès aujourd'hui, le 3 février, et ne nécessite ni loi ni règlement. Ces changements concernent le code de conduite du personnel des écoles publiques, privées et catholiques et confèrent à l'autorité de régulation, la New South Wales Education Standards Authority, le pouvoir d'ordonner à un établissement scolaire de licencier un membre du personnel en cas d'infraction. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, explique que cette décision fait suite à des affaires où des enseignants ou des directeurs d'écoles de renom ont été accusés de propos haineux, mais où le gouvernement estimait ne pas pouvoir intervenir. La vice-première, Prue Carr, affirme que ce changement est nécessaire.
This is a common sense change. The vast majority of schools this will never apply to. But it is important that the government sends a message to the parents of New South Wales that schools should always be safe places. And in order for those to be as safe as possible, we will crack down on hate speech in schools and the community.
Pauline Hanson a annoncé que l'ancien sénateur libéral Cory Bernardi rejoindra le parti One Nation en tant que chef en Australie-Méridionale et se présentera aux élections de l'État le mois prochain. Madame Hanson recrute des personnalités dissidentes de la coalition, son parti connaissant une forte progression dans les sondages et dépassant les partis libéral et national, tandis que la coalition s'enfonce dans le chaos. Conservateur convaincu, Cory Bernardi a été une figure controversée de la politique fédérale en tant que sénateur d'Australie-Méridionale pendant 13 ans jusqu'à sa démission en 2020. Son ralliement à One Nation intervient après la défection en décembre dernier de Barnaby Joyce, ancien député du Parti national et deux fois chef du parti. Ailleurs dans le monde, les Nations Unies ont salué la réouverture du point de passage de Rafah, mais ont appelé à une augmentation du nombre de personnes autorisées à franchir la frontière. Cette réouverture constitue une étape importante du processus de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais elle reste essentiellement symbolique car peu de personnes seront autorisées à circuler dans les deux sens et aucune marchandise ne pourra transiter. Selon les autorités sanitaires de Gaza, environ 20 000 enfants et adultes palestiniens nécessitant des soins médicaux espèrent quitter le territoire dévasté par ce point de passage. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, souhaite un assouplissement supplémentaire des restrictions à la frontière.
As we have said before, civilians must be allowed to leave and return voluntarily and safely as international law requires. Ultimately, essential humanitarian supplies must enter in sufficient quantities and with fewer restrictions through Rafah and all other crossings.
Le président iranien Massoud Pezeshkian ordonne des pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire. Selon des médias proches du pouvoir, une première rencontre pourrait avoir lieu en Turquie dans les prochains jours, probablement entre le ministre iranien des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et de renforcement du déploiement militaire américain. Donald Trump a averti qu'un échec des négociations pourrait engendrer un conflit plus large, reprenant ainsi les inquiétudes exprimées par le guide suprême iranien Ali Khamenei. En France, le budget de l'État pour 2026, adopté après quelques 4 mois de blocage, le Premier ministre Sébastien Lecornu se réjouit. Les précisions de Victorien Guillaume pour Radio France Internationale.
Juillet 2025, François Bayrou prend de l'avance et présente sa copie.
Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays.
Des annonces qui ne passent pas, François Bayrou échoue à obtenir la confiance de l'Assemblée.
Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Et c'est Sébastien Lecornu qui reprend le flambeau du budget.
Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le sujet maintenant, c'est comment chacun fait un pas.
LFI et le RN se placent en dehors de toute discussion avec le gouvernement, Jordan Bardella.
Nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure.
Là où le PS, comme l'an dernier, accepte l'idée d'un accord de non-censure, Olivier Faure.
Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité.
9 décembre, contre toute attente, le budget de la sécurité sociale est adopté via un vote.
L'Assemblée nationale a adopté.
Ça bloque en revanche au Parlement pour le budget de l'État. Sébastien Lecornu revient sur sa parole.
Le gouvernement engage sa responsabilité.
2 février, le budget est définitivement adopté.
Aucune des 2 motions de censure n'ayant été adoptée.
Une loi trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche.
L'Inde et les États-Unis ont conclu un accord commercial après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord ramenant les droits de douane réciproques sur les produits indiens à 18%. Cet accord fait suite à la décision de l'Inde de cesser ses achats de pétrole russe et d'accepter une réduction des barrières commerciales. Les marchés indiens ont été fortement affectés depuis l'imposition de ces droits de douane par Washington, faisant de l'Inde le marché le moins performant des pays émergents en 2025 avec des sorties de capitaux étrangers records. Le Premier ministre indien Narendra Modi a remercié le président américain via une publication sur la plateforme de médias sociaux X.
When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation.
En Australie à nouveau, la police de Nouvelle-Galles du Sud a ouvert une enquête afin de déterminer comment Julian Ingram, Le tireur présumé s'est procuré des armes à feu qu'il aurait utilisées lors de la fusillade qui a fait 3 victimes à Lac Cargueligo en janvier dernier. La police a déclaré lancer une enquête pour incident critique qui examinera en détail les antécédents de violence conjugale du suspect et son accès aux armes puisqu'il ne possédait pas de permis de port d'armes. Le commissaire adjoint de police, Andrew Holland, indique que les enquêteurs pensent que cet homme de 37 ans pourrait bénéficier d'une aide extérieure pour échapper aux autorités.
After 12 days in this heat and the conditions in, I believe he is getting help from people, and again, that's why we're appealing to members of the public to give us some support and obviously provide information about whether they have seen him, whether they've had contact with him.
L'Australienne décédée dans un accident tragique survenu dans une station de ski japonaise a été identifiée comme Ella Day Brooke. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'une assistance consulaire est apportée à la famille de la jeune femme de 22 ans. La station de montagne de Tsukige et la société Tsukige Gondola Lift ont présenté conjointement leurs excuses pour l'accident, indiquant qu'une enquête serait ouverte sur l'incident mortel. Selon la station, l'accident s'est produit lorsqu'une boucle de ceinture non attachée du sac à dos de Madame Brooke s'est prise dans le télésiège alors que la sangle de poitrine était encore correctement attachée, la faisant glisser sur la neige et la laissant suspendue dans le vide. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 31 degrés, Adélaïde 32, Melbourne 32, Hobart 25, Canberra 28, Sydney 26, Brisbane 27, Darwin 31 et à Alice Springs maximale de 35 degrés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
Dans l'actualité sportive de ce mardi, on commence avec l'Open d'Australie qui s'est clôturé ce week-end avec des moments historiques. Côté homme, l'Espagnol Carlos Alcaraz a frappé un immense coup en s'imposant face à Novak Djokovic lors d'une finale d'anthologie. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 4 manches contre Djokovic, 2-6, 6-2, 6-3 et 7-5. En remportant le match en 3 heures et 2 minutes, le joueur de 22 ans a pulvérisé un record détenu par Don Budge depuis Roland-Garros en 1938, année où l'Américain avait réalisé le grand chelem en carrière quelques jours avant son 23e anniversaire. Alcaraz est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'ère Open à posséder 7 titres du grand chelem en simple, surpassant ainsi la performance des Bjorn Borg qui avait réalisé de la performance à l'âge de 23 ans aussi. Alcaraz a confié avoir vécu des moments intenses et chargés d'émotions avant sa campagne pour l'Open d'Australie 2026. On l'écoute.
Vous savez, c'est un sentiment incroyable. Remporter au moins une fois les 4 tournois du Grand Chelem trottait dans ma tête depuis pas mal de temps. À chaque fois que je venais en Australie, dès la pré-saison, j'y pensais. Je travaillais dur pour être le plus compétitif possible afin de gagner ce tournoi. Ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais ces dernières années, mais je suis heureux d'avoir su hisser mon niveau de jeu et devenir meilleur pour gagner cette année.
La victoire d'Alcaraz face à Djokovic qui se trouve être le dernier joueur à avoir réalisé le grand chelem en carrière à Roland-Garros en 2016, fait de l'Espagnol le 9e homme seulement à accomplir cet exploit et le premier à réaliser à l'Open d'Australie. En battant le Serbe sur son terrain de prédilection, c'est une victoire symbolique qui met fin à l'invincibilité de Djokovic à ce stade de la compétition. À Melbourne. Détenteur des 10 titres de l'Open d'Australie, Djokovic n'avait jamais perdu de match à ce stade de la compétition. Le Serbe revient sur sa défaite dans un match loin d'être à sens unique.
I knew he's a very smart all-round player that obviously changes tactics and adjusts his game depending on how he feels the opponent is playing, so I knew that he's going to switch things around and he's going to raise his level, so I didn't, you know, I knew what I needed to do, but just some things happened and my energy, my level went completely down, like from north to south in two games. And yeah, that's what I managed to recuperate and kind of feel re-energized, as I said, mid-fourth. I was close, but it wasn't meant to be.
À 38 ans, Novak Djokovic reste un joueur redoutable et il n'exclut pas de pouvoir remporter un autre titre de Grand Chelem contre la génération montante. Il évoque aussi sa victoire en 5 manches en demi-finale contre Yannick Sinner.
I have belief and I have always confidence and vision to win a slam, another slam anywhere, to win anywhere where I play. Yeah, I mean, look, I managed to beat Yannick, who is double defending champion here, and won the last, whatever, 4 or 5 matches against me. So in 5 sets, very proud of that. I mean, incredible match, incredible achievement. Again, I lost to a number one in the world and, you know, already a legendary player.
Côté dame, toujours à l'Open d'Australie, Elena Rybakina succède à Madison Keys en remportant le titre 2026. Rybakina a réussi l'exploit de vaincre la grande favorite Arina Sabalenka. Alors que Sabalenka semblait intouchable, Rybakina a imposé son calme et son service de plomb pour neutraliser la puissance de la Biélorusse en 3 manches, 6-4, 4-6, 6-4. C'est le 2e titre de Rybakina en Grand Chelem après Wimbledon en 2022. Et aussi, la rencontre de ce week-end à Melbourne marque une revanche aussi contre Sabalenka, qu'il avait battu sur le même court il y a 3 ans. Une défaite qui avait marqué Rybakina dans sa jeune carrière. On l'écoute.
C'est un accomplissement incroyable. Je suis très heureuse et très fière. C'était un match compliqué et je ne pensais pas pouvoir saisir ces opportunités durant notre bataille car Arina Sabalenka est une joueuse exceptionnelle. Je suis contente de quitter Melbourne avec le trophée. J'ai toujours su que je pouvais retrouver mon meilleur niveau. Tout le monde peut connaître des hauts et des bas dans une carrière. J'ai pensé souvent ne plus jamais remporter ce type de trophée, mais le plus important, c'est le travail. Quand vous arrivez à enchaîner de belles victoires face aux meilleures joueuses, vous gagnez en confiance et c'est comme ça que j'ai remonté la pente.
Rybakina est la première joueuse kazakh à remporter un titre en simple à l'Open d'Australie. Cette victoire la propulse dès ce lundi à la 3e place mondiale, ce qui est le meilleur classement de sa carrière. Et petite consolation pour Sabalenka, battue en finale 2 années consécutives, elle conserve tout de même sa place au classement mondial côté dames. Toujours à l'Open d'Australie côté junior, Xenia Efremova, âgée de 16 ans, est devenue la première Française à remporter un titre du Grand Chelem féminin à l'étranger depuis 2001, après son triomphe à l'Open d'Australie ce week-end. On l'écoute après sa victoire contre la Russe Ekaterina Tupitsina 6-3, 7-5.
C'est toujours bien de gagner quand tu joues bien sûr, c'est toujours plus facile. Quand tu sens la balle, ouais, c'est plus facile de gagner comme ça. Mais c'est plus dur de gagner quand tu sens rien. Donc, je suis super contente de moi.
Efremova a tenu à célébrer sa victoire comme ses idoles Sabalenka et Djokovic à l'issue d'un match de Grand Chelem en s'écroulant sur le court. Et autre moment historique, à l'Open d'Australie, deux mamans figurent pour la première fois dans le top 10 du classement mondial. Belinda Bencic et Elina Svitolina sont les 5e et 6e joueurs à intégrer le top 10 en tant que mères, après Margaret Court, Yvonne Goolagong-Corley, Klim Clijsters et Serena Williams. Belinda Bencic s'est dit fière de cette performance.
That means of course a lot to me. Making it back to the top 10 means, of course, a lot to me. I'm super proud of this achievement, but I think mainly I have to thank my support team, my family, for helping me so much, you know, to make this possible for me to do what I'm doing, to travel around the world and still play tennis. I think without them, I wouldn't be able to do that. And in general, I'm just super happy. And also, thanks so much for the fans, for the support.
Selon les règles introduites en 2019, les nouvelles mères qui reprennent la compétition peuvent utiliser leur classement précédent pour participer à 12 tournois sur une période de 3 ans à compter de la naissance de leur enfant. Au football, à présent en Ligue 1, se jouaient ce week-end des matchs comptant pour la 20e journée du championnat. Lens a battu Le Havre 1-0, Lorient a battu Nantes 2-1, Lyon a battu LOSC 1-0. Défaite du PSG 2-1 face à Strasbourg, on écoute le coach du PSG. Peu avant la rencontre, il évoquait la capacité de son équipe de jouer sous pression.
Ce qui a changé, c'est Lens, qu'il a gagné 10 des 11 derniers matchs. Ils sont différents. Le reste, c'est comme d'habitude. Nous avons dans notre plus ou moins capacité à gagner des matchs. Cette année, c'est très différent. J'aime la pression. Nous savons, ou nous sommes habitués à avoir cette idée de pression. Et il faut montrer demain que nous aimons cette pression.
Toujours à la 20e journée de Ligue 1, match nul entre Toulouse et Auxerre, 0-0. Victoire d'Angers contre Metz, 1-0. Monaco a écrasé Rennes, 4-0. Par contre, match nul entre Paris FC et Marseille, 2-2. Côté dames en Ligue 1, ce week-end se jouait la 14e journée du championnat, marquée par la victoire de Lyon contre le PSG, 1-0. Pour la petite histoire, les Parisiennes n'ont pas gagné un match contre l'OL depuis 2022. Selon Paolo César, l'entraîneur des Parisiennes, tout n'est pas à jeter dans cette défaite. On l'écoute au micro de nos confrères de RFI.
Je pense qu'elles ont créé une relation plus importante qu'avant. Si on parle de premier match, par exemple, hein, le constat, il est bon, mais c'est pas suffisant parce qu'on gagne pas. Donc là, il faut aussi être réaliste. Le constat, il est bon et c'est comme ça qu'on va continuer à progresser et avoir des victoires dans le futur.
Et toujours des rencontres comptant pour la 14e journée de Ligue 1 côté dames. Dijon a battu Strasbourg 3-0. Victoire également de Fleury face à Montpellier. 1-0, défaite de Marseille face aux Parisiennes, 3-0 et match nul entre Nantes et Lens. 2-2. C'est tout pour l'actualité sportive de ce mardi, suite du programme dans quelques instants.
Sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. On passe à la semaine politique et vous êtes en compagnie de Patricia Meunier et de Bertrand Tungandamé.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Actualité politique de ce mardi, le gouvernement fédéral a accepté de verser 25 milliards de dollars supplémentaires pour financer les hôpitaux publics et soutenir le système NDIS, National Disability Insurance Scheme. Retour sur cet accord obtenu après de longues négociations avec Patricia Meunier.
Le gouvernement fédéral a mis fin à un bras de fer avec les gouvernements des États et des territoires en concluant un accord historique en matière de santé vendredi dernier à Sydney. Au cours des 5 prochaines années, 25 milliards de dollars supplémentaires seront mis à disposition pour stabiliser les hôpitaux publics et augmenter les services de soutien aux personnes handicapées, qui font partie du NDIS. Si cette réunion a été saluée pour ces réformes, des experts médicaux et les premiers ministres des États soulignent que des investissements supplémentaires sont indispensables pour répondre aux besoins de santé du pays. Le premier ministre Anthony Albanese présente cet accord comme une réforme qui surpasse de loin les engagements fédéraux précédents. On l'écoute.
This agreement represents one of the most significant national reforms in living memory. As part of this deal, the Commonwealth will provide an additional $25 billion for public hospitals to reach a record $219.6 billion over the next 5 years. This is three times more additional funding for public hospitals than was agreed to under the last five-year agreement under the Morrison government. We also committed to working together to make the NDIS better and more sustainable.
La hausse du nombre de médecins pratiquant le tiers payant avec les patients a apporté un soutien au système de santé. Le ministre de la Santé, Mark Butler, rappelle que le système hospitalier a frôlé ses limites.
There is very real pressure on the hospital system as there is right across the health and social care system presented by the aging of the population.
Mais pour faire face au vieillissement de la population et à la hausse des maladies chroniques, l'Australie a besoin d'une plus grande refonte du système. Comme par exemple une stratégie de formation de spécialistes en milieu rural ou une relocalisation des soins hors des services hospitaliers surchargés au sein de la communauté. Parmi les problématiques, celle des personnes âgées qui restent hospitalisées en raison d'un manque de lits disponibles dans des maisons de retraite. On écoute les explications de Peter Breedon du Grattan Institute.
Far too many patients who are ready to go home in terms of their health needs are stuck in hospital, sometimes for weeks or many months, because they can't get into aged care or they can't get the disability supports that they need to leave hospital and go home. And the states are rightly really worried about this. It could add up to 1 in 10 hospital bed days that are used for these stranded patients. It's bad for the patients, their well-being, their health, and of course, it clogs up the whole hospital system.
Pour l'instant, des investissements importants sont nécessaires pour assurer que les hôpitaux puissent gérer les besoins croissants d'une population vieillissante.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à l'interview avec Frédéric Alliot, qui est le CEO de l'Alliance française French Film Festival. Et il parle de l'édition 2026 en compagnie de Christophe Mallet.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment. En ligne.
Eh bien, aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir de recevoir Frédéric Alliot. On va parler, bien entendu, de cinéma. Bonjour Frédéric.
Bonjour Christophe.
Alors, votre rôle déjà, parce que c'est un rôle bien spécifique. Vous êtes le monsieur cinéma pour le festival. C'est votre job, c'est ce que vous faites au jour le jour.
C'est ce que je fais au jour le jour, effectivement. Je crois qu'il y a pire comme travail. Techniquement, je travaille pour l'ambassade de France. Ouais. Je suis attaché audiovisuel, mais je suis affecté à plein temps à la gestion d'une nouvelle entité de droit local qui a été créée il y a deux ans. Je suis arrivé il y a deux ans et mon job à plein temps, c'est d'organiser le festival et de gérer l'entité. publicité qui coordonne ça nationalement.
Alors, le titre du festival, c'est bien entendu le Alliance Française French Film Festival, édition de 2026. On va pas revenir tout de suite sur l'histoire du festival qui est grande, qui est longue, qui a vraiment forgé la culture française en Australie. On va parler déjà de ce qui nous attend en 2026 avec un très très beau film d'ouverture et un monsieur du cinéma, même s'il est encore relativement jeune, on va dire, mais il a quand même pas mal de films derrière lui, c'est Cédric Clapiche.
Cédric Clapiche, oui, film La Venue de l'Avenir, qui était à Cannes cette année, et qui est un film qui fait voyager dans le temps. C'est une histoire contemporaine, c'est une histoire d'héritage, et puis des membres d'une famille qui ne se connaissent pas se réunissent autour d'un héritage d'une grand-tante qu'ils n'ont jamais connue. Et puis on va découvrir sa vie au début du 19e siècle, où elle évolue en fait dans le monde des impressionnistes. Donc on va voyager dans le temps, voir ces belles images de cartes postales du Paris d'antan, et puis rencontrer toutes ces figures historiques du 19e siècle, notamment impressionnistes et de littérature, Victor Hugo, etc.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui a été fait donc en 2025-2024, enfin avec les technologies d'aujourd'hui en tout cas, et ça vraiment ça nous transporte. C'est pas une recréation qui pourrait avoir un maquillage un peu mauvais raccord. Enfin c'est très 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 bien fait, c'est très léché comme film. On s'y croirait réellement au moment des impressionnistes. C'est très bien fait.
Oui, puis en plus il y a ce côté de voyage temporel, donc c'est vrai qu'on accompagne les personnages, et puis on découvre avec eux, et puis le personnage de la grand-tante, en fait, elle quitte sa région pour découvrir Paris, on découvre tout ça avec elle, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, évidemment, donc c'est très immersif.
Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment, ça m'a marqué moi quand j'ai vu le trailer, parce que j'ai pas encore vu le film. C'est moi qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité de l'image, la qualité du traitement justement de ces voyages dans le temps. C'est vraiment un très beau film à voir. C'est important de choisir un bon film d'ouverture pour bien lancer un festival.
Ouais, tout à fait. Ça marque le ton. Et puis, à la fois, il faut que ce soit quand même un petit peu événementiel. Donc, c'est vrai que c'est plutôt des films qui ont un gros budget, un gros casting ou un réalisateur assez célèbre. Donc, il doit être quand même accessible. Ça doit être un spectacle, en fait. Et ça donne le là, je pense, pour le reste de la programmation.
L'année dernière, on avait voyagé aussi un petit peu dans le temps. On était parti sur la vie de Charles Aznavour. C'était ça, l'année dernière, le film d'ouverture. Et là, aujourd'hui, donc, on part chez les impressionnistes. Au total, c'est 38 films, 18 villes, 40 cinémas. C'est un gros festival. Ça grandit encore ou c'est vraiment une taille qui vous convient?
Ça continue de grandir. On a un tout petit peu moins de villes par rapport à l'année dernière. On a 18 villes au lieu de 20. Par contre, on a plus de cinémas. Et ça continue de grandir. Après, l'idée, c'est pas de grandir de manière systémique, systématique.
Un chiffre, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Alors effectivement, on se donne des objectifs. Par exemple, cette année, enfin 2025, c'était notre meilleure année avec pratiquement 199 000 spectateurs.
Bah évidemment. On aurait voulu faire 200 000 quand même, non?
On n'aurait pas eu le cycle d'Alfred à Brisbane, on l'aurait fait en fait. Donc du coup, ça devient un challenge personnel. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on, j'ai envie de dire, on s'impose à nous-mêmes. C'est pas un objectif en soi, mais évidemment, ça fait plaisir de voir que le public nous suit, un public de fidèles, et que probablement, on gagne de nouveaux spectateurs aussi chaque année.
Alors, on va juste faire ce qu'on dit en anglais, le bookending. On va parler du film de clôture, et puis après, on parlera de ce qui se passe au milieu. C'est Avignon. C'est un très beau film, Avignon. Pour la chance, je l'ai vu. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Ce ne serait pas un festival du film français sans une bonne comédie romantique. Alors, il y en a d'autres, d'ailleurs, dans le cadre de la programmation. Mais effectivement, celui-là, il coche les bonnes cases, j'ai envie de dire. Oui, c'est romantique. Puis, ça se passe dans un cadre aussi qui est magnifique, celui d'Avignon, pendant le fameux festival. Exactement. Donc, voilà, pour ceux qui aiment ces images de cartes postales de France que je mentionnais, mais c'est vrai que il faut savoir jouer avec nos clichés aussi, même si on veut aussi emmener les spectateurs vers d'autres endroits, d'autres pistes, d'autres sujets. Mais là, en l'occurrence, on veut toujours clôturer sur une note légère, sympathique. C'est romantique, c'est beau à voir, ça met en joie. Et pour nous, c'était le film parfait pour la clôture du festival.
Et dedans, il y a Alison Wheeler, qui est peut-être la plus française des Irlandaises à Paris, que vous connaissez peut-être si vous regardez Quotidien ou si vous avez la chance de voir sur les réseaux les snippets de Quotidien. Elle est très, très drôle, Alison Wheeler.
Elle est très drôle et puis c'est une excellente chanteuse aussi.
Exactement.
Elle est très très bien dans le film, effectivement. C'est un très bon personnage.
Alors juste pour nommer quelques films, quelques sommités, il y aura pendant ce festival. Alors, peut-être pas, en tout cas probablement pas en Australie, pour ce festival Isabelle Huppert. On sait qu'elle est dans les parages, c'est pas sûr qu'elle passe, et ce serait une belle surprise, mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais c'est des films avec Laure Calamy, enfin il y a vraiment du beau monde sur votre sélection. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les films? Peut-être on va pas parler des 38 films, et il faudrait aller voir sur le site internet pour bien comprendre la complexité et l'intégralité, je voudrais plutôt dire, de ce festival. Mais quelques films marquants pour vous sur cette sélection.
Bah, très clairement, on a un film qu'on appelle le centerpiece, le plat de résistance, si on peut dire, avec Isabelle Huppert. C'est la femme la plus riche du monde. Mm-hmm. Donc c'est une adaptation, c'est à Cannes également, c'est une adaptation en fait de la vie de Liliane Bettencourt. Ouais. Et alors ils ont changé les noms, mais les faits restent réels.
On comprend bien l'histoire.
Effectivement, donc ça très, très, très clairement, ça va être un grand film pour nous. Effectivement, il y aura la venue d'Isabelle Huppert au Festival d'Adélaïde, pas au Festival du film français. Mm-hmm. C'est deux événements séparés, mais évidemment, ça va attirer l'attention sur ce film. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment attirer l'attention. Ensuite, on a effectivement nos événements signatures comme Taste of France. Généralement, ça marche chaque année. Il y a vraiment un intérêt pour les films sur la gastronomie. Donc cette année, on a un film de Régis Varnier qui s'appelle La Réparation, Redress en anglais, qui est une sorte de thriller où on va en fait commencer dans un restaurant de campagne qui a des étoiles Michelin, et puis on va suivre la disparition du chef cuisinier jusqu'à Taïwan, et on va découvrir la scène de la fusion, la food fusion à Taïwan. On a aussi Ladies Night, pareil, ça fait partie de nos événements signatures, avec cette année le film qui s'appelle Cycle of Time. En français, c'est « C'était mieux demain ». Voilà. Avec Didier Bourdon, c'est un peu le Back to the Future français avec Didier Bourdon en Michael J. Fox. On fait la plaisanterie, d'accord, évidemment, mais le film, il est très drôle. Et puis, c'est un message.
Bizarrement, ça me le vend pas. Mais bon, allons-y.
Donc, c'est un film qui a un message parce qu'effectivement, à une époque où on dit « Ah, c'était mieux avant », ben, on se rend compte, en tout cas, quand on était une femme, que les années 50, c'était pas forcément mieux.
Ouais. Pour tout le monde, hein, quand on s'aperçoit que les douches chaudes, ça date que des années 70, avant, il n'y avait pas forcément une douche chaude dans toutes les maisons. Donc, vous pouvez y penser tous les matins quand vous prenez la vôtre. Ça, c'est certain.
Et puis on a Laure Calamy, effectivement, parce qu'elle est très populaire ici, dans deux films. Un qui s'appelle C'est quoi l'amour, What is love, qui est une comédie très drôle qui va vous emmener jusqu'en Italie sur l'histoire d'un mariage qu'un couple qui a divorcé souhaite faire annuler pour pouvoir se remarier religieusement. Alors, c'est quelque chose de peu connu qui est réel. J'en parle parce que c'est arrivé à quelqu'un de très proche de moi très récemment. Mm-hmm. Donc, finalement, c'est un vrai sujet. Et elle est aussi dans cette comédie qui était à Cannes également, qui s'appelle Classe moyenne, The Party's Over, qui est une sorte de comédie sociale assez mordante, qui est très drôle. C'est ce qu'on a d'ailleurs projeté hier dans le cadre de notre lancement média.
Il y a aussi un film dans la section Classic Movie, bien sûr. C'est Un homme et une femme de Claude Lelouch.
Bah oui, je parlais effectivement de romantisme qu'on associe évidemment
avec... plus romantique que ça.
Il n'y a pas plus romantique que ça. C'est le 60e anniversaire du film, restauré en version 4K. C'est un classique. Il avait gagné des Oscars, etc. Donc, pour nous, effectivement, c'était un must. À partir du moment où c'était son anniversaire qui était restauré, de le présenter, oui, évidemment. C'était un no-brainer, comme on dit.
C'est dur d'avoir un festival sans Claude Lelouch. Parce qu'il a quand même fait beaucoup de films tous les ans. Il tourne encore. Enfin, on parlait de grand monsieur du festival. Claude Lelouch, ça serait intéressant de voir combien de films de Claude Lelouch il y a eu dans l'histoire du festival. Ça va être assez mémorable quand même.
Bah c'est vrai qu'à une époque, il devait faire un film par an. Alors c'est vrai qu'il est moins prolifique depuis ces dernières années. Parfois, la qualité est inégale, je vais être assez honnête.
Oui.
L'année dernière, il y a un film qui m'avait plutôt séduit, donc on a remis Lelouch dans la programmation. Et puis là, effectivement, c'est un concours de circonstances, mais pour moi, le film est un incontournable.
C'est un chef-d'œuvre, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses marquantes que vous pouvez nous divulguer maintenant?
Par exemple, on a des choses qu'on fait pas toujours régulièrement. Par exemple, on a un film de science-fiction cette année avec Chien 51, Dog 51, qui a été un succès au box-office avec...
Plus d'un million d'entrées en France.
C'est ça, exactement. Donc, c'est suffisamment rare pour être noté. Et puis,
Budget, par contre, derrière. C'était un des plus gros budgets du cinéma français l'année dernière.
C'était un des plus gros budgets, oui. C'était effectivement une grosse sortie. Et puis, on a pas mal de choses, des adaptations de livres, de grands classiques littéraires, évidemment. Je pense à Jean Valjean, qui est une toute petite partie des Misérables. C'est vraiment le début. C'est vraiment quand Jean Valjean sort du bagne. Et puis voilà, sa rencontre avec le prêtre, le nom m'échappe là tout de suite, mais qui va le faire revenir à son humanité pour devenir le héros qu'on connaît. Et puis, bien évidemment, le magnifique film de François Ozon, L'étranger, adapté du roman d'Albert Camus, qui est absolument magnifique.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres du journal de ce 3 février. En Australie, le ministre des Finances, Jim Chalmers, affirme que son gouvernement a fait baisser l'inflation tout en reconnaissant que le taux d'inflation reste trop élevé. L'opposition blâme les dépenses gouvernementales et les économistes anticipent une hausse des taux d'intérêt lorsque la Reserve Bank annoncera sa décision cet après-midi à 14h30. Les Nations Unies ont salué la réouverture du point de passage de Rafah, mais ont appelé à une augmentation du nombre de personnes autorisées à franchir la frontière. En France, le budget de l'État pour 2026 a été adopté. Et puis, le président iranien Massoud Pezeshkian ordonne des pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire. Et voilà, on est arrivé presque à la fin de cette émission. On vous laisse avec France Gall, évidemment. Belle fin d'après-midi. À très bientôt sur SBS en français.
Qui ne change rien, qui change tout, évidemment.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.